mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu.
Prouve-le-moi.
Quatrième cap. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe.
Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de High Kick dans tes films préférés. Et oui, quand je dis nouvel épisode, parce que c'est un nouveau format qui viendra de temps en temps ponctuer vos écoutes et nous recevrons bien évidemment un invité qui nous parlera de ses trois films d'arts martiaux préférés. Aujourd'hui, Seb n'est pas à mes côtés, mais ne vous en faites pas, vous le retrouverez la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, attention, c'est une mission spéciale car nous recevons deux invités spéciaux. Et oui, nous recevons l'équipe de Pulse Édition, Guillaume et Claude, qui se sont associés à Nanarland pour marquer le retour des improbables Nanarland, une sélection de trois films tous dingos les uns que les autres, afin de faire revivre les grandes heures de Godfréo ou encore de Alphonse Béni. Alors déjà, comment allez-vous, messieurs ?
Merci.
Ça va.
Merci de nous inviter, ça fait plaisir.
Merci à vous d'avoir accepté l'invitation.
Bonjour, je sais pas comment...
À quelle heure va-t-on être diffusé ?
À 6h du matin, ouais. D'accord.
À 6h du matin, l'émission sera sur toutes les plateformes et les gens pourront écouter cette émission-là.
Ah bah dis donc.
Donc en plus ça tombe bien parce que nous approchons de petit à petit de la fin de votre crowdfunding. La nuit Nanarland démarre le week-end prochain, donc samedi prochain. Et en plus de ça, si vous avez dû écouter mercredi dernier notre épisode sur Black Belt aka Kickboxer Cop avec Don Zordon Wilson, donc là nous sommes vraiment dans un programme nanar pour la nuit Nanarland. Vous voulez faire ça pour vous, chers auditeurs, vous qui aimez bien les nanars, et ben vous voulez faire ce petit cadeau. Donc, comme je disais, en fait, messieurs, vous avez lancé un crowdfunding sur Kiss Kiss Bang Bang. Et concrètement, on va pas se mentir, l'objectif est largement dépassé.
Nous aussi, on est largement dépassé.
Je vous en félicite. Et donc, du coup, en fait, je vais vous dire très franchement... Donc vous n'êtes pas à votre premier crowdfunding, hein. Ma DVD Tech et mon banquier vous remercie d'ailleurs. Vous avez été notamment à l'initiative du projet Atomic Future avec de belles pépites dont Atomic Cyborg qui reste un gros classique. Puis il y a eu des livres, des films érotiques, bref, tout un tas d'objets cinématographiques qui fait bien évidemment plaisir à tous les cinéphiles bisseux. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler des trois films dont on va parler ce soir, on va contextualiser mon introduction. Et déjà, vous allez vous présenter, donc qui êtes-vous et comment est née cette nouvelle opération de crowdfunding ?
Claude, je t'en prie.
Faut que je me présente.
Eh ben,
alors,
vas-y, Claude.
Je suis Claude Gaillard et... Je sais pas trop quoi dire, en fait, voilà, je m'occupe de Pulse avec Guillaume, et comme tu l'as dit, on fait des bouquins, on fait de l'édition vidéo, on fait plein de trucs, voilà.
Et moi, c'est Guillaume, et effectivement, c'est une aventure qu'on a commencé, justement, qui est ancrée, qui a des racines dans la nuit Nanarland, donc c'est un peu comme un retour aux sources, puisque on s'est vu en vrai, en premier, pour la première fois pendant la nuit Nanarland, et c'est là qu'on s'est dit, qu'on a partagé notre étonnement que personne n'est jamais encore sorti Atomic Cyborg en Blu-ray en France, et donc c'est...
C'était une discussion un peu surréaliste parce que c'était 3h du matin dans le hall, tu vois, à l'entrée. Et je crois qu'il y avait Stéphane Bouillet aussi, hein, du Chat
qui fume, hein.
Qui nous disait faut pas le faire. Voilà, et nous, ah non, mais il faut faire Atomic Cyborg. Pourquoi personne n'a fait Atomic Cyborg ? Mais c'est pas normal. Voilà.
Et justement, c'est à ce moment-là qu'on s'est, on a décidé de faire un crowdfunding. Et donc la philosophie qu'on a adoptée par rapport au crowdfunding, c'est justement de confronter nos envies et nos convictions au fait qu'il y ait des gens ou pas en face. Et donc, tant qu'il y a des gens pour nous dire « Ouais, ok, nous, on est pour, allez-y », on le fait. Et puis quand c'est pas le cas, bah ça veut dire que il faut, bah, quand on demande leur avis aux gens, il faut les écouter. Donc quand ils disent non, pas trop, et ben on les écoute et ça nous arrive aussi de se mettre des envies de côté définitivement, ouais, sur l'oreille ou sur la de se mettre l'envie sur l'oreille.
Quoi? Vas-y, mais jusqu'au bout maintenant que tu as commencé.
Alors parfois pas éternellement, ça nous arrive aussi de ressortir des choses parce que c'était pas le bon moment. Par exemple, quand on a fait Tammy and the T-Rex, c'était pas la première fois qu'on voulait y aller. On avait déjà tourné autour du truc. Et puis bon.
On avait déjà mis un doigt dans Tammy.
Et c'est peut-être 2 ans plus tard que l'occasion s'est représentée à la faveur d'un certain nombre de choses. Et puis voilà, puis des fois les gens ils disent juste bah non, en fait, nous, ben voilà, on est. On trouve toujours quelques personnes comme nous qui partagent la même envie, mais il faut quand même qu'il y ait quand même assez de monde parce que, bon, que ce soit les livres, les Blu-ray, bon, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut, beaucoup d'énergie, ça coûte des sous. Donc en fait, ça, à l'intérieur de toutes les envies qu'on a, on en a beaucoup en commun et puis on se nourrit l'un l'autre de nos envies respectives. Oh, ça va, on peut largement le crowdfunding pour ça, c'est bien parce que ça permet justement de se mettre un principe de réalité, quoi. Et de faire une étude grandeur nature. Est-ce qu'on est assez? Est-ce qu'on va être assez pour mériter toute l'énergie qu'il faut pour arracher un film ou un bouquin à rien, quoi, à quelque chose qui n'a pas lieu parce qu'il y a rien d'automatique, il y a rien d'évident. C'est pas des choses dont les gens ont besoin, en fait.
Mais pour rien te cacher. Moi, j'étais un petit peu réticent, je ne sais pas si tu te souviens, Guillaume, au départ, au niveau du crowdfunding, parce que je trouvais que c'était un peu compliqué, le principe de base du crowdfunding était un peu tordu par des systèmes de prévente et des choses comme ça. Mais c'est vrai que sur les projets que nous, on défend, qui sont quand même des projets culturels qui sont un petit peu à part, si aucun éditeur n'est allé sur ces films-là, si aucun éditeur de livres n'est allé sur ces livres-là, c'est précisément parce que c'est méga risqué, en fait.
Ouais.
Tu sais pas ce qui va t'arriver, tu peux perdre beaucoup d'argent sur ce genre de choses-là. Et c'était une façon, le crowdfunding, de faire exister ces films et ces bouquins. Franchement, un livre comme Rayon X, on n'aurait jamais pu le faire sans le crowdfunding. Faut le dire la vérité. Pas un éditeur nous l'aurait pris. Et ce livre, il a fonctionné, il a marché grâce au crowdfunding. Donc en fait, c'est ça qui nous pousse à réutiliser systématiquement l'outil, c'est que ça nous permet justement d'aller sortir des choses comme Vice Academy, qui avait aucune chance d'être déterré par un éditeur français. C'est ce qui nous a permis de lancer les post-apos. Je sais pas si tu te souviens, mais quand on a commencé à sortir les post-apos en Blu-ray, il n'y avait aucun post-apo qui était sorti en France.
Oui, tout à fait.
Les films sont sortis en salle. Et avec même des scores tout à fait honorables, hein, pour certains. Donc c'est des films qui avaient marché, que les gens connaissaient, qui étaient vachement passés sur la 5, qui avaient fait les cartons en vidéo. Donc il y avait un truc qui était bizarre. Et puis alors vraiment, à chaque fois qu'on en parlait autour de nous, les gens qui font de l'édition, les camarades, ils disaient bah non, faites pas ça, quoi, faites pas du post-apo, faites pas ces trucs-là, c'est des merdes, tout ça, machin. Donc
Faut dire un truc, hein, c'est qu'en plus nous on est un peu des sales gosses, on est un peu cons, en fait. Enfin, je veux dire, si tu nous dis faut pas le faire, c'est ça nous motive. En fait. Tu me dis non, faites pas ça, genre, ouais. Non, il a dit qu'on pouvait pas le faire. Attends,
on va
faire.
Aller voir, nous. Ah ouais, non, mais obligé, on veut aller voir, nous. Hein, et donc le voilà. Des fois ça se passe mieux que ce qu'on pouvait espérer. On a eu des petits parfois aussi l'inverse est vrai aussi, hein. Puis il y a des choses qu'on n'a pas faites aussi pour les mêmes raisons. Donc, parce que, enfin, c'est pas à deux gars tout seuls qui se montent le bourrichon que on peut déterminer ce qui va plaire à plusieurs centaines de personnes. Hein. Et c'est également vrai pour les livres. Hein. D'ailleurs, enfin, nous, on a l'impression comme on côtoie quand même, notamment l'édition. On côtoie pas mal l'édition. On côtoie des éditeurs qui ont un fonctionnement très classique, très conventionnel. Et effectivement, des fois, ça nous fait vachement. On se dit putain, c'est juste une nana et un gars dans un bureau comme ça, dans un immeuble climatisé, qui ont décidé d'engager plusieurs dizaines de milliers d'euros sur un projet de bouquin. Et en fait, ils savent pas quoi. Donc comme on peut quand même se faire une idée assez précise juste en demandant aux gens, effectivement nous on le fait à peu près à chaque fois quoi, avec quelques petites exceptions. C'est vrai que quand on a sorti Devil Story, on s'est dit quand même on va pas dire aux gens c'est une cause à laquelle qu'il faut que vous souteniez Devil Story. C'est on l'a quand même fait, mais on n'en a pas non plus fait des caisses quoi.
Campagne ça te dit pas tout de la vie d'un produit, en fait. C'est un moment de la vie d'un produit, c'est son lancement, le moment où il est proposé aux gens, où il est formulé en fait. Et nous on a des produits qu'on fait je pense à Vice Academy qui a fait une toute petite campagne en fait, hein. Je crois qu'on devait en vendre 250 ou un truc comme ça.
C'était un petit lot, hein, pour Vice Academy, hein. Ouais.
Et c'est devenu, en fait, c'est un des Blu-ray qu'on a pratiquement le plus vendu, je pense.
Je crois qu'il en reste 5. Alors, pas les Français, hein. Ce qui s'est passé, alors, bon, ça, c'est que, en fait, il y a pas mal de gens qui se sont mis à l'acheter. En fait, il n'y a pas eu d'autres éditions en Europe, par exemple. Il y avait l'édition américaine, hein, de Vinegar, mais personne d'autre l'a sorti ailleurs. Il y avait eu la VHS, et je suis même pas sûr qu'il y ait eu du DVD ailleurs qu'en France. Et donc en fait, on a des Allemands qui l'achètent, des Anglais, des gens dans les pays scandinaves. Donc du coup, il a eu sa petite vie assez marrante, et là on arrive au bout du tirage quand même. Alors on a plus les droits, donc on le refera pas. Hein. Et puis bon, c'est bon, c'est déjà bien, c'est déjà un assez bel exploit. Mais on a. Alors celui-là, on n'aurait pas donné très cher de sa peau. Hein. Ça nous fait marrer, hein, nous, de faire un truc en fait qui a cartonné quand ça passait sur la 5. Voilà. Donc c'est un petit bout d'histoire qui est quand même restreint, hein, qui est très générationnel, parce qu'après derrière ça, enfin la 5 et la VHS, mais ça a quand même parlé à un peu de gens, quoi.
C'est vrai, avec la particularité de ce film, c'est là tu vois vraiment le fossé qu'il y a entre la culture française et la culture américaine, parce que le film est quand même assez connu aux États-Unis. C'est un truc qui a coïncidé avec le passage de Ginger Lynn dans le cinéma plus mainstream, et puis c'est un machin qui était diffusé sur ce fameux programme de nuit qui s'appelait USA Up All Night, qui était sur la chaîne USA Network, et que tous les ados regardaient. Donc, si tu préfères, tous les tirages qu'ils ont fait en DVD aux États-Unis ont tous été épuisés, quoi. Donc, du coup, voilà, notre tirage, coup de chance, c'était une opportunité pour eux d'avoir le Blu-ray, quoi.
Et là, messieurs, là, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, vous faites plaisir à tout un tas de fans de Ninja, puisque vous sortez 3 films, dont 2 vraiment cultissimes. Donc vous avez Black Ninja de Godfrey Ho, avec Richard Harrison et Alphonse Benny. Vous avez Cameroon Connection avec Alphonse Benny et Bruce Lee. Et puis vous avez aussi...
Le vrai Bruce Lee.
Et oui. Ensuite, Karaté contre Mafia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous ressuscitez aussi Les Improbables de Nadarland. Donc ça, c'est incroyable. Et en fait, c'est quoi? C'est un partenariat avec eux? C'est eux qui sont allés vous chercher, c'est vous qui êtes allés, vous êtes allés les chercher. Comment ça s'est passé?
Ah, on s'est paxé et on habite chez eux maintenant.
Ah ben c'est incroyable, félicitations.
Dans leur salon.
Non, c'est je pense que, enfin, c'est des envies. Alors, c'est quand tu dis mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est quelque chose qui est qu'on cultive de longue date. Sur ces films-là. De notre côté, et aussi, aussi Nanarland, c'est eux qui ont fait exister ces films-là, hein. Karaté contre la mafia, c'est grâce à eux qu'on l'a découvert en France. Il y a les homologues espagnols de Nanarland qui avaient vraiment révélé le film, qui l'avaient découvert. Et puis après, c'est à la nuit Nanarland 2016 qu'ils ont émerveillé tout le monde avec ce film-là. Donc, c'est des chemins qui se rencontrent. Moi, je voulais faire quelque chose avec ce film-là depuis que je l'ai vu. Je me disais, mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas le négatif quelque part, qu'il n'y ait qu'une copie scannée avec sauvegarder de la destruction comme ça. On doit pouvoir trouver mieux. Et ce film, il est tellement adorable. Et puis alors pour ce qui est de Black Ninja, donc qui est en combo avec en double programme avec Cabron Connection, bah c'est un intérêt pour Alphonse Béni. Donc un intérêt qu'il y a du côté de l'équipe de Nanarland depuis longtemps et que moi aussi j'ai depuis de longues années parce que depuis que j'ai appris l'existence de ce type et qui a fait des films, qui a joué dans plein de trucs, jusqu'à jouer dans des films de ninja et qui faisait du cinéma populaire de divertissement au Cameroun à l'époque, ce que absolument personne ne sait, avec comme modèle Jean-Paul Belmondo. Donc le Belmondo camerounais. Moi, ça m'a intéressé. Moi, c'est exactement le genre de truc moi qui me plaît. ça me plaît. Donc j'ai voulu. Ça faisait très longtemps que j'étais sur Cameroun Connection. Depuis au moins 8 ans, parce qu'il se trouve que un des producteurs du film, c'était quelqu'un que j'avais interviewé pour le bouquin sur Brigitte Lay, parce qu'il avait aussi produit des films avec Brigitte. Ouais. Et donc m'avait mis sur la. Enfin, je savais que ce film-là, c'était possible de mettre la main dessus parce que le type en sait rien. Et que je cultivais le savoir où était le négatif. Que j'avais sécurisé les droits. Mais à une époque où je faisais, on s'était pas encore rencontré avec Claude. J'en étais même pas à imaginer faire des Blu-ray. Mais je l'avais dans un coin. Et puis du côté de Nanarland aussi, il cultivait ce qu'il y avait à faire autour d'Alphonse. Il se renseignait, il prenait des contacts avec lui, moi aussi. On voyait que c'était pas facile de le faire parler parce que c'était quelqu'un d'assez qui avait une sorte de réserve et puis qui était pas du genre assez penché quoi. On se rapprochait de lui. Il y avait des interviews qui étaient programmées et malheureusement il est mort au printemps dernier, il est mort en mars dernier. Et puis c'est le moment où on s'est dit on l'a raté, c'est pas grave, maintenant faisons ensemble une belle sortie de Cameroun Connection et évidemment allons chercher Black Ninja. On connaît l'ayant droit qui est la société IFD qui produisait les films de Godfrey Ho a été rachetée par un Anglais, donc c'est plus facile de discuter avec lui ça lui a plu hein, quand il a vu le projet. Et donc on s'est dit qu'on allait sortir Black Ninja, qui est vraiment un monument de la culture nanar, avec Cameroun Connection, et puis qu'on allait faire les choses bien pour vraiment faire comprendre aux gens, expliquer aux gens et leur faire découvrir qui était Alphonse Béni, qui était cet acteur et réalisateur avec un parcours assez étonnant, qui a beaucoup fait de choses en France, qui allait faire des films au Cameroun avec des équipes françaises, donc avec par exemple son directeur de la photographie, il s'appelait Roger Pelous, qui est celui qu'il a sur Cameroun Connection, qui et donc avec une qualité d'image dont on n'avait pas l'habitude, qui crée une forme de proximité avec qu'on n'a jamais vu en fait. Il y a un caractère inédit en fait dans ces vues de Yaoundé idée de, voilà, avec les gens dans les rues, tout ça, il y a 40 ans, en fait. On connaît pas ces images-là, parce qu'on a plutôt l'habitude d'images documentaires, qui sont pas aussi travaillées, avec une lumière, avec un boulot sur la lumière et tout ça. L'envie, chez Benny, l'envie de faire plaisir aux gens, de faire des trucs trépidants, d'avoir des bagarres, où lui, il joue le tombeur, il emballe les meufs, et puis il va chercher un artiste martial hongkongais, un sosie de Bruce Lee pour faire un film de karaté, enfin pour faire le premier film de karaté camerounais, c'est quand même complètement ouf.
C'est incroyable.
Et du coup, sans lui, mais avec ses proches, notamment avec quelqu'un qui a été très proche de lui, qui est même devenu son tout jeune était son assistant, puis qui est devenu son producteur. Quand par la suite, après avoir arrêté de faire des films en 35 mm, Benny s'est mis à en faire en vidéo. Dans les années 2000. Donc Jean-Roch Patoudem, il est beaucoup plus disert, il est beaucoup plus il nous a raconté beaucoup plus de choses que ce que Benny nous aurait raconté. Certainement, parce qu'il y a plein de choses dont lui parlait pas. Et donc on a fait un beau bonus dont on est très content. Avec l'équipe de Nanarland, et puis avec plein d'extraits. On a été chercher aussi dans les labos un court-métrage de Benny qui a alors lui qui n'est même pas sorti en VHS, rien, hein, réalisé, exprès. Des bandes annonces aussi de ces films, qui nous donnent vachement envie de les voir maintenant. Et puis on a aussi retrouvé les rares images de lui qui parle à un public, qui ont été enregistrées pendant une séance de ciné-club, un an avant sa mort, pour une projection de Cameroun Connection. Et donc on a avec la société de production qui avait organisé ce ciné-club et qui avait fait la captation, on s'est mis d'accord aussi pour que ce soit présent sur le Blu-ray. Donc on a plus de 2 heures de bonus qui sont hyper cool en fait. Et puis les films quoi. Black Ninja c'est une tuerie.
D'ailleurs, on va en parler. Bah, du coup, là, t'as amorcé le truc, donc on va en parler de suite de Black Ninja. Donc, Black Ninja, c'est un 2-en-1 de Godfreyo. Alors, Godfreyo, on connaît un peu sur iKid dans ton podcast, puisque on a chroniqué le film Undefeatable avec Cynthia Rosrock, qui est un film totalement inédit en France, qui est jamais sorti en VHS ni en DVD en France. On espère un jour qu'il sorte avec de nouvelles VF et autres, parce que c'est un film totalement nanar. Messieurs, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce film ?
Claude, tu veux commencer ?
Non, vas-y.
Bah, effectivement, Godfreyo, qui est quelqu'un qu'on peut entendre dire parfois que à l'époque, ils n'avaient pas forcément beaucoup d'argent, donc ça leur arrivait parfois d'aller chercher quelques images de films qui existaient déjà pour boucler les siens. Bon, Godfreyo, c'est effectivement quelqu'un qui a systématisé ce principe du 2-en-1, qui consistait en fait, pour abaisser le coût de production d'un film, à mélanger un film généralement taïwanais, dont les images avaient été acquises à vil coût, avec un film avec des acteurs occidentaux. Qui allait permettre au film d'avoir sa sortie sur les marchés occidentaux et évidemment sur les VHS, en VHS, et de permettre de mettre des gaijin sur les VHS. Donc la proportion d'images originales, elle est assez variable selon les films. Par exemple, dans Hitman the Warrior, qui est d'où vient la réplique et l'hymne de Lanarland, hein, Philippe chez où tu te caches enculé. En fait, les images originales faites par Godfreyo avec Richard Harrison, on est vraiment sur 10 minutes. Alors que Black Ninja, c'est beaucoup plus généreux. On a une bonne moitié du film qui a vraiment été fait avec Alphonse et Richard Harrison. Et puis effectivement, on a un film taïwanais qui est plutôt assez dynamique, qui est mélangé. L'astuce qui était trouvée pour faire se correspondre les intrigues, c'était souvent de faire se téléphoner les gens. Donc ils se téléphonaient d'un film à l'autre, hein, ça permettait de donner un petit peu de liant aux répliques, et puis ils se montrent des photos aussi, c'est-à-dire que dans le film avec les occidentaux, ils se montrent des photos des personnages du film taïwanais, puisque évidemment le film taïwanais, ils sont pas au courant qu'eux ils sont...
non.
C'est plus compliqué dans le sens, en fait.
La conscience d'être mélangé à un film, elle n'est que d'un côté. Mais c'est vrai que ça donne des choses assez incroyables. Et puis alors surtout, là, on est en pleine folie du ninja. C'est même déjà un peu en train de descendre, hein, puisqu'on est pour Black Ninja, on est en 87, donc on est déjà dans le moment de la où on atteint la surexploitation. On a déjà atteint la surexploitation et c'est on va dire ça tire ses dernières cartouches. Et là, l'imaginaire ninja réinventé, notamment par Gotreo, avec les ninjas qui ont écrit ninja sur le front, les tenues, Alphonse Béni et Richard Harrison, ils ont des jaunes canaries, quoi. Ils ont des Alphonse et Harrison, ils ont des tenues jaunes canaries avec des empiètements glitter. Donc tu repasseras pour la furtivité. Et puis évidemment, le truc qui est hyper commode avec les ninjas, c'est que ça te permet de mettre un ex culturiste avec la cinquantaine bien tapée, et puis dans le plan d'après, de l'avoir remplacé, quand il a mis sa capuche, de le remplacer par un cascadeur hyper svelte qui fait 20 cm de moins et qui est capable de faire des trucs que Richard Harrison ne ferait pas. Et avec ces plans aussi à la fois naïfs et roublards, hein, qui font qui nous emplissent de tendresse pour le cinéma d'exploitation. Quand t'as Richard qui monte son épée, ensuite t'as sa doublure qui fait des trucs pas possibles, des flips et tout, enfin et paf, t'as un zoom sur t'as une coupe et t'as un zoom sur les yeux de Richard ou de Alphonse pour te montrer que c'était bien eux. Alors que la supercherie elle est énorme, mais
c'est incroyable.
Nous on marche à fond parce qu'on évidemment on la voit la supercherie, mais qu'elle soit répétée comme ça tout au long du film, c'est avec cet aplomb là. Bon, nous on trouve ça super. Et puis là, on a deux ninjas de haut niveau, hein, parce que Alphonse qui a un très beau physique, hein, qui est beau gosse, enfin dans les plans où il est torse nu et tout, tu vois qu'il est super bien, mais par contre il est raide comme un piquet. Et donc,
non, faut pas dire ça. Il bouge sa manière.
Il a sa propre gestuelle, effectivement. Effectivement, c'est là que tu vois. D'ailleurs,
mais c'est vrai qu'on dirait un peu un guépard malade,
ouais,
en fait.
Avec un peu de l'arthrose.
Ouais. Ouais, c'est très joliment dit, ça.
Jean-Roch nous le racontait, c'est-à-dire que quand il est parti, quand on lui a proposé de faire, parce qu'il avait rencontré Richard Harrison, qui lui a dit, ils ont fait un film en Italie ensemble, qui s'appelle Chasse à l'homme. Que j'espère aussi qu'on va pouvoir sortir. Le qui a l'air vraiment très très bien. On passera là. Il y a la bande annonce en bonus qu'on a numérisé aussi, qu'on a retrouvé dans un labo, qu'on a numérisé, qu'on a mis en bonus.
Ah, trop chouette.
Qui est génial. Évidemment, on va voir le film. Et donc ils ont sympathisé. Et puis Pierre Harrison lui a dit, mais je veux pas faire un film de ninja. Et alors. Comme Benny, il était vraiment lui, enfin, il adorait, hein, tout, il adorait les films hongkongais. Il s'est quelques années avant, il avait fait venir Bruce Lee dans son propre film. Enfin voilà, lui c'était complètement son kiff de faire des films d'action, tout ça. Il avait déjà démontré toute la non pas l'étendue, mais la limite de ses talents martiaux aux côtés de Bruce Lee. Donc il est parti à Hong Kong faire le film. Il était trop content. Et bon, par contre, il a un peu déchanté quand il a vu le niveau des comédiens et des cascadeurs locaux.
La production.
Et il a vu que effectivement c'était plutôt pas mal qu'il soit cagoulé en fait la plupart du temps, enfin que ce soit pas lui, parce que ça a même été d'ailleurs assez contrariant pour lui, hein, ça l'a quand même pas mal fait descendre, hein, parce que c'est là qu'il a vu que c'était pas que du cinéma, que c'était quand même aussi même si c'était des cascadeurs anonymes avec des conditions de travail avec des gens qui se blessaient et tout, certainement. Malgré tout, c'était quand même des gens hyper forts. Parce que dans ce film de ninja, les combats sont c'est complètement n'importe quoi. Ils font n'importe quoi avec leurs armes. Ils disparaissent. Ils font des boulinets qui leur font faire des trucs pas possibles. Ils ont leur boule de fumée et tout. Mais on a des gens qui sont vraiment compétents en termes d'arts martiaux. Donc on a des combats qui sont quand même assez cool avec une grosse couche de porte nawak. Mais c'est des gens qui savent vraiment vraiment qui savent vraiment faire des pratiquer les arts martiaux pour l'écran et les rendre cinématographiques. Et le donc oui, pour Alphonse, ça a été une expérience un peu mitigée. Qui ne l'a pas complètement arrêté, hein. C'est-à-dire il a fait encore quelques autres films avec O voilà, moins des films d'arts martiaux, plutôt des films de Il a fait un film de guerre, hein, il a fait, parce qu'on était aussi en période de Rambo Exploitation.
Top Mission.
Ouais, on était aussi en période de Rambo Exploitation, oui. Hein, que Claude connaît très bien, ouais, aussi, bah ouais, parce qu'il a aussi écrit un livre sur le sujet. Et voilà, bon, c'est rigolo, hein, c'est rigolo Top Mission, mais c'est beaucoup moins marrant que Black Ninja. C'est
oui.
Non, puis Black Ninja, il y a tout, il y a les méchants, ouais, qui sont vraiment, enfin, tu sais, quand t'étais un gaiji, un occidental, t'avais même pas besoin d'avoir une bonne tête, d'avoir de la prestance ou quoi que ce soit. Hein. Tu pouvais faire, si vraiment tu ressembles à rien, tu faisais le méchant dans un film de Godfrey Ho. Et ah non, mais là les méchants ninjas, ils sont géniaux, ils jouent super mal, ils en font des caisses, ils ont pas l'air redoutables du tout, quoi. Non, ils sont fabuleux.
Puis en plus il y a les combats qui sont accélérés, il y a la musique de Miami Vice, il reprend la musique de Miami Vice, puis
Harrison
qui adore la pastèque et du bio.
Bah, écoute, c'est des bonnes musiques, je veux dire, c'est genre pourquoi s'en priver.
Vas-y, mais Claude, je t'ai coupé la parole.
Ça serait intéressant de se poser la question des conditions dans lesquelles étaient tournés ces films-là, parce que moi je me souviens de Richard Norton, qui est quand même, tu vois, déjà c'est un vrai artiste martial, c'est un vrai cascadeur, un chorégraphe, etc., qui a dit que tout ce qui est tourné en Asie, il a failli se tuer plusieurs fois, quoi. Ouais. C'était tourné n'importe comment, dans des conditions de sécurité très faibles et.
Bah, d'ailleurs, on en parle dans Hiking, dans ton podcast, mais Richard Norton, sur les. Alors, on n'a pas encore chroniqué de film avec lui, mais pour autant, on l'a name-droppé pour Nicky Larson et pour Magic Crystal, et en fait, c'est pas lui du tout qui se bat. Pour autant, c'est un, comme tu dis, hein, c'est un grand cascadeur, c'est un grand artiste martial, mais pour Nicky Larson, il me semble que les coups allaient trop vite. Et c'était pas non plus très sécure. Et pour Magic Crystal, c'est un film qui est à petit budget, donc forcément les risques étaient démultipliés.
Enfin, je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Enfin, il y a ce qui se passait aux Philippines à une époque après similaire a un peu mieux été documenté, parce qu'il y a plus de productions américaines, qui est notamment Corman, hein, a beaucoup fait de choses aux Philippines. Mais ouais, non. Alors nous, on a le rêve de faire une grande interview avec Godfrey Ho. On pense qu'il va nous bombarder. Mais il a été interviewé pour le film sur les clones de Bruce Lee de David Gregory de ses vrais films, hein, qui est d'ailleurs un film sur lequel voilà, on a un documentaire sur lequel on a des projets, puisqu'on enfin voilà, pour dire les choses rapidement, nous n'en avons pas terminé avec les ninjas et nous n'en avons pas terminé avec les faux Bruce Lee. Il a l'air très sympa, Godfrey Ho. Ah, il a une bonne tête,
ah bah oui,
et tout.
Ah, mais je pense que c'est quelqu'un d'adorable. Hein.
Ouais.
Et après, sur la vérité, de toute façon, on se fait. Enfin, je veux dire, le cinéma, bon, bah, c'est un milieu dans lequel le cinéma continue en dehors des films. Hein, donc, on se fait toujours pipoter sur les interviews. Enfin, oui. Si tu fais des interviews avec les Italiens, tu compares avec ce que d'autres journalistes ont réussi à avoir ou d'autres sources à avoir, tu vois, les versions changent, la même personne va avoir plusieurs versions, ils règlent leur compte entre eux. Tu sais jamais trop, en fait, si t'as la vérité. C'est hyper relatif, en fait, donc bon, c'est pas très important, à mon avis, d'avoir
la vérité, non. Enfin, c'est bien aussi d'avoir la parole des gens, surtout que bon, bah voilà, c'est des bon. Godfrey Ho, il a une bonne tête, il a l'air en forme, mais c'est pas non plus un jeune homme. Et puis ils vont pas être là longtemps pour raconter, même si c'est pour raconter ce qu'ils ont envie de raconter. C'est quand même bien de les écouter. C'est vrai que voilà, Alphonse, on l'a raté à quelques semaines. Hein. ce qu'on avait prévu, de faire une interview, de, sans aller là-bas, puisque maintenant c'est plus nécessaire. Puis ça, c'est tout le monde a pris l'habitude, depuis le Covid, de faire des interviews à distance. Et donc non, c'était prévu. Il avait quelqu'un pour filmer. Voilà, on avait commencé à échanger sur les questions. Bon, c'est donc en fait, quand on voilà, comme le dit Claude, on sait qu'on n'a pas la vérité, mais on a au moins la parole des gens qui ont fait les choses. Et c'est quand même vachement bien parce que c'est des choses de première main, quoi. C'est pas du commentaire sur les films. Et puis quand les gens dévient de ce qui a pu vraiment se passer, bah ça fait quand même encore partie de l'histoire, quoi. De l'histoire.
Oui, voilà, c'est le charme en même temps. Et puis je pense que Godfrey Ho, comme Joseph Lay, sont deux personnes qui ont eu 1000 vies. Et d'ailleurs, ça serait intéressant, d'ailleurs, si un jour vous avez l'occasion d'interviewer Godfrey Ho, ça serait intéressant de lui poser des questions sur sa période américaine. Parce que, du coup, comment il l'a ressenti, cette période américaine? Il a tourné, il me semble, 3 ou 4 films avec des artistes martiaux. Et ce serait intéressant de savoir comment lui, il l'a ressenti, comment il a pu filmer. Parce que là, en l'occurrence, pour les films américains, c'était carrément des longs métrages, c'est-à-dire que à la limite sur Hitman the Cobra ou Black Ninja, on pouvait avoir 30-45 minutes, pour Hitman 10 minutes de film avec des acteurs occidentaux, et puis après il reconstruisait une sorte de puzzle avec un autre film. Mais pour ces films américains, c'est carrément lui qui filmait tout le film, et on pouvait voir que il a quand même un petit talent. Alors, je dis pas que, attention, c'est Godfrey Ho, mais il y a quand même un petit quelque chose, et bon, ça sera intéressant de savoir comment il a réussi à filmer, à tourner aux États-Unis.
On lui demandera. Pour ne rien cacher, effectivement, sur les ninja, on a un projet de bouquin. Parce que c'est une assez belle histoire, l'histoire des ninjas au cinéma. Avec des moments comme Black Ninja qui confinent à une sorte de magie, enfin de relative, mais où vraiment tout ce qu'on voit c'est dingue, quoi. Il y a rien qui va, et en même temps tout prend, tout s'assemble, quoi.
Non, puis on ne se rend pas compte du succès que ça a eu, parce que c'était quand même super populaire. Il faut quand même imaginer, quand même, je crois que c'était le jeudi soir, tu avais 2 films de ninja sur la 6, quoi. Carrément. Quoi. Je veux dire, les trucs de ninja, ça a marché à mort.
Il y a eu 5 American Ninja,
ça a marché. Et puis la VHS, enfin, il y avait des murs de films de ninja, ouais. Quoi. C'était. C'est assez incroyable, hein. Aujourd'hui, on se plaint du trop-plein de Marvel et de DC Comics, mais à l'époque, c'était les films de ninja, quoi. Qui d'ailleurs tenaient lieu de super-héros de quand on était môme, hein. Parce qu'ils pouvaient faire quand même des trucs.
Et puis ça marchait plutôt bien, hein. Ça marchait vraiment bien au cinéma. Moi, j'ai un souvenir de chiffres pour le premier American Ninja. On est à 800 000 entrées. Et déjà, pour l'époque, c'était un immense succès. Et pour rappel, quand même, les deux premiers sont quand même sortis au cinéma en France. Et ça, c'est incroyable.
Tous les films, tu sais que la plupart des films de Godfrey Ho sont sortis en France, hein, tous les films dont on parle.
Ouais,
nous, on trouve des choses dans les labos et tout. On trouve des bandes annonces, on trouve des copies. Non, les films sortaient au cinéma. Hein. C'était une époque où il y avait pas forcément besoin d'autant d'entrées. Puis c'était des exploitations qui étaient longues, c'était en double programme dans les salles. Et puis effectivement, il y avait la VHS et même la télé qui s'y est mis pas longtemps après. Hein, M6, la 5, elle en passait, hein, des films de ninja. Hein. Elle passait indifféremment des chefs-d'œuvre de la Shaw Brothers, c'est des films de Godfrey Ho.
Oui. <C'est... rire>
Dans une grande fête permanente de quand tu rentrais du collège à l'époque, en fait tu posais les fondations d'une culture, d'une cinéphilie déviante sans le savoir. Et il y avait du post-apo italien, il y avait
quand même une forme de, ouais, c'était une réalité économique, fallait produire des programmes, de la diffusion avec peu d'argent, donc ils allaient chercher un peu tout ce qu'ils trouvaient, quoi. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est pareil. Les chaînes, enfin, une grande partie de la culture bisseuse, même si ça s'appelle pas comme ça aux États-Unis, mais bon, voilà, elle vient de ça. Elle vient de la télévision et de l'ère des vidéoclubs.
Exactement. Exactement. Elle vient de là. Elle vient du fait que, en fait, les chaînes qui commençaient à être de plus en plus nombreuses aux États-Unis, c'est arrivé tôt, hein, là, la multiplication des chaînes, hein, avant la France, mais même en France aussi, hein, si on est passé de 4, 5, 6 chaînes en l'espace de quelques années, et fallait remplir toutes ces, une chaîne de télé, elle est toujours obligée de diffuser quelque chose, et donc il puisait dans l'océan des productions à petit budget qui coûtaient pas cher, qui coûtaient beaucoup moins cher que s'acheter des films américains, et voilà, il savait pas ce que ça allait, il ne savait pas ce que ça allait faire des années plus tard, que ça allait les créatures les perturbateurs endocriniens que ça allait donner des gens comme nous ou comme les 2500 personnes qui se ruent à la nuit nanarlande non, c'est cool.
Ninja Operation Magic Warrior, a twisted tale of bloodshed, revenge and sadistic torture. Ninja Operation Night and Warrior. Good ninjas sit in perilous war with the force of evil drug lords.
Et d'ailleurs, là, on en a terminé avec Black Ninja. On a beaucoup parlé de Kamen Connection, mais on va quand même redire quelques mots, puisque c'est un film, c'est le premier film réalisé par Alphonse Beny. C'est pas le premier film réalisé par Alphonse Beny. En revanche, c'est le premier film dans lequel il joue. Alors, et ça se voit, parce qu'il n'est pas très à l'aise
devant
l'écran.
Ce n'est pas le premier film dans lequel il joue.
J'étais persuadé.
Mais tu peux te dire ça, ce que tu t'es dit, tu peux te le dire dans tous ces films.
C'est d'ailleurs un peu problème, en fait.
C'est clair que c'était un beau gosse. Hein. C'était quelqu'un qui avait un succès absolument certain. C'était un tombeur. Voilà. C'était clairement un tombeur. C'était d'ailleurs le fait qu'il soit pote avec Paco Rabanne et qu'il le ramène dans le film, c'est parce que c'était quelqu'un qui...
C'est
quelqu'un
incroyable.
Qui sortait beaucoup, qui était très très actif dans le monde de la nuit et qui, enfin, il devait pécho à tour de bras, quoi. Mais ça c'est clair, ça c'est sûr, ça c'est vraiment le quand il se montre dans ses films, il y a d'autres films où c'est plus à la bébelle, notamment un film qui s'appelle Saint Voyou. Ouais. J'espère aussi qu'on va pouvoir sortir, dont il y a la bande-annonce aussi, dont on a retrouvé le négatif de la bande-annonce. Tu le vois, un plan sur deux, enfin, un plan, il donne un coup de poing où il tire au revolver, l'autre plan, il vole des diamants, et le plan d'après, il emballe une nana, quoi.
Ou alors il emballe le revolver et il tire la nana.
Il joue pas très bien. Il joue pas très bien, mais par contre. Mais il avait du succès, hein. Il avait du succès à l'écran aussi. Enfin, je veux dire, dans l'Afrique francophone, il était super identifié. Enfin, quand même, ce que nous a raconté Jean Roch. Quand même, c'est que dans tous ses films, il a son personnage de Baiko. Alors pas dans Black Ninja, mais dans tous les films qu'il a écrits et réalisés, il joue un flic ou un aventurier, mais quand il est flic, c'est un flic incorruptible, qui s'appelle Baiko, hein, l'inspecteur Baiko. Et les gens l'appelaient Baiko. Les gens au Cameroun l'appelaient Baiko. Sa famille, les gens dans la rue, les flics. Pour les flics, il était de la maison. Il lui demandait des conseils. Il avait jamais de contredanse. Il pouvait laisser sa voiture à l'aéroport pendant un mois. Et les flics disaient, ah non, ça c'est la voiture de Baiko. c'est... Ouais, et les gens l'appelaient Baiko. Enfin bon, ça, quand il nous a raconté ça, on était avec Régis et Régis de La La Land. On avait, enfin tu vois, on était pour nous c'est comme un conte de fées quoi. quand on te raconte quelque chose comme ça, c'est et effectivement il y avait la queue à la sortie de chacun de ses films. Les gens le reconnaissaient, tout ça. Alors en même temps c'était pas une star parce que il y avait une vraie proximité. Puis à l'époque c'était encore un pays, c'était encore un petit pays. Il y avait pas encore eu l'explosion démographique qu'il y avait eu après. Donc il y avait une grande proximité avec les gens. Mais voilà, tout le monde le connaissait. Tout le monde le connaissait, tout le monde l'appréciait. Et aussi dans les autres pays francophones, hein, alentour, parce qu'il était le seul à faire ça. Et ça, c'est quand même assez génial. Il était le seul à vouloir faire des films pour faire plaisir aux gens, des films de divertissement, alors des films de disco, il y a un film qui s'appelle African Fever, dans lequel il a convié vraiment tous les groupes qui avaient du succès à l'époque, et puis il greffe là-dessus d'enquête de l'inspecteur Baiko. Bon, l'enquête a l'air un peu d'être un prétexte, mais surtout, c'est un all-star de tous les musiciens et les groupes et chanteurs et chanteuses qui cartonnaient chez les jeunes au Cameroun à l'époque. Il a fait aussi un film qui s'appelle Disco Fever aussi, qui lui aussi est là franchement disco. Voilà, il y avait que lui qui faisait ça. Saint Voyou, donc avec le côté bébel. Et puis il va quand même jusqu'à dire, allez, ce qui plaît. Et moi j'aime ça, c'est le karaté. Je vais aller chercher. En plus par une connexion qui nous fait marrer. C'est qu'il le rencontre par l'intermédiaire, enfin il le rencontre par l'intermédiaire de Jean-Marie Pallardy quand même, Bruce Le.
Ah oui, bah oui, oui. Le Camoulox. Ah
ouais, là sur ce coup-là, parce que Bruce Le avait fait un film qui s'appelle Bruce contre-attaque.
Ouais. Ouais, d'ailleurs, il avait fait la promo chez Drucker dans Champs-Élysées.
Carrément, il était venu faire une petite démo où il mettait la pâtée à quelques gars, et puis après il y avait le producteur du film André Cobb qui faisait la traduction simultanée. C'était très très bien. Et donc ce contre-attaque, il faudra aussi guetter dans la collection Les Improbables de la Néerlande. C'est pas impossible hein, que. C'est même assez possible qu'il se passe quelque chose avec ce film-là qui est. Lui aussi un sommet hein, du nanar. Et ben à un moment il y a un échange de coups avec Pallardy et Pallardy vendait Pallardy qui était très indépendant, qui était un réalisateur et aussi qui distribuait aussi largement ses films lui-même, vendait aussi les droits en Afrique de ses films. Et Benny avait une double activité, il était producteur, réalisateur et acteur, enfin il était de ce côté-là de la caméra et il était aussi distributeur de films. Et donc il connaissait Pallardy parce qu'il achetait les films de Pallardy pour les sortir pour les diffuser dans les différentes salles du Cameroun. Les films érotiques et puis les choses un peu plus et donc il se connaissait et c'est Pallardy qui les met en contact avec Bruce Le.
Ah oui. Incroyable. D'ailleurs Bruce Le est un acteur vraiment incroyable qui va pousser le vice vraiment en imitant mais vraiment geste par geste le petit dragon et c'est fou. Après c'est vrai qu'il fait partie de la Bruce exploitation où il y a eu beaucoup de sosies de Bruce Lee avec Bruce Lee mais L.I. Bruce Lee Yang, enfin bon, c'est vraiment assez impressionnant et du coup c'est vrai que moi ce film Cameroun Connection, je reste quand même marqué sur une scène. Alors c'est d'ailleurs, il me semble que c'est une scène que vous avez mis en avant pour présenter le film, mais c'est la scène de combat entre donc il y a Bruce Lee d'un côté, Alphonse Bénib de l'autre. Ils sont dans une sorte de hangar et
fabrique de bière parce les méchants. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Alphonse qui n'avait pas de subvention. Parce qu'il n'allait pas en demander. Il n'avait pas la patience de faire les dossiers et tout ça. C'était pas son genre. C'était vraiment quelqu'un de très très de très très concret, de très très pragmatique et puis pas du tout il allait de l'avant. Et donc pour aider au financement de ses films, il prenait des sponsors. Alors il conduit toujours des Toyota dans tous ses films. Et puis il avait aussi comme sponsor une fabrique de bière, et donc il y a pas mal de scènes qui se passent dans la fabrique de bière. Il y a une autre scène à un moment, puisque en Bruce-le, il c'est censé être à lui dans le film, donc il dit ah bah viens, je vais faire visiter l'usine. Et donc t'as des plans sur les machines qui mettent les bouteilles, qui les mettent dans des caisses et tout. C'est parce qu'en fait c'est l'instant promo, c'est le placement produit qui lui aidait à boucler le financement de ses films.
C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. En tout cas, ce film est incroyable. Franchement, les personnes qui n'ont pas vu, les chers auditeurs, si vous n'avez pas vu ce film-là, déjà, allez faire un tour sur le crowdfunding et prenez Cameron Connection. C'est une pépite.
On précise que Cameron Connection et Black Ninja sont sur le même Blu-ray. Avec les 2 heures de bonus qu'on a.
Cameroun Connection par devant et Black Ninja par derrière. Ah. Tu peux l'inverser aussi, hein, si ça te fait un petit peu peur, Black Ninja par derrière. Tu préfères Cameroun Connection. Ah, non, comme
on a mis les deux films, donc c'est vraiment spécial dédicace à Alphonse Béni, Baïko. Et avec les 2 heures de bonus et les versions VHS, donc effectivement, nous on n'aurait pas hésité, hein, donc on est content qu'on soit pas être les seuls à penser ça. Mais ouais, gars, c'est quand même bien généreux, quoi. Et puis voilà, c'est la manière dont on avait envie avec l'équipe de Nanarland de marquer le coup avec cette figure du cinéma très singulière et hyper passionnante. Alors, mais qui a toute sa place dans la collection Les Improbables de Nanarland pour autant, hein, parce que voilà, c'est des Cameron Connection, il y a plein de choses. Enfin, qu'on n'a jamais l'impression d'avoir vu dans ce film, mais c'est quand même super nanar, hein. Notamment les dialogues qui n'ont aucun sens, son enquête, donc c'est censé être un flic d'élite, bon, son enquête, il la mène n'importe comment, voilà, mais il y a un twist scénaristique à la fin, il y a quelque chose qui est...
La scène du sorcier.
Alors le film n'a pas été filmé en son direct parce que c'était assez compliqué en tournant en extérieur et tout, donc tout a été repost-synchronisé. Benny se double lui-même, donc c'est sa vraie voix, mais par contre c'est que des doubleurs français qui font tous les autres personnages, donc y compris tous les...
Comme ils peuvent.
On reconnaît des voix. Le directeur de production, c'était André Kelossi, qui était la personne en charge de tous les doublages pour René Château.
Vous pratiquez cette médecine coutumière, docteur ?
Pas si le sujet est trop faible. Rarement avec une femme pour qu'elle ne tombe pas amoureuse de moi.
Et vous pourriez envoûter Baïko comme le fait Cui-Cui, docteur Kenny ?
Si le sujet ne résiste pas trop, oui.
D'accord. Mais à condition que vous ne me faites pas tomber amoureux de vous.
Quelle blague! Attendez, on va essayer.
Est-ce que je peux jouer de la guitare sans vous déranger?
Bien sûr, c'est toujours magique, la musique. Monsieur Baïko, regardez-moi attentivement. Regardez-moi, Baïko. Regardez-moi droit dans les yeux, ne bougez pas.
Donc, qui a fait travailler pour Cameron Connection, comme pour sur toutes les VF mythiques René Château, de super doubleurs. Alors après, tout est aussi dans les indications que tu donnes à tes doubleurs. Et donc, il y a le personnage du sorcier, et là, c'est, on dirait du Michel Leb.
Pas dû avoir beaucoup.
On lui a dit, t'as vu, tu connais Michel Leb, c'est bon, quoi. Donc,
c'est bon. Ouais.
Alors que tous les autres, ils parlent avec un accent parisien, tu vois, c'est ou marseillais. Alors il y en a quelques-uns qui ont l'accent marseillais aussi, pas piqué des hannetons. Ça c'est notamment le personnage qui s'appelle le Marseillais, mais qui en fait est libanais. Alphonse, lui, Baïko, il dit comment ça va Marseillais, l'autre il lui répond avec un accent pas possible et tout, ah ça va, hein. Quand j'étais à Marseille et à un moment il lui dit un truc, il dit, mais tu sais bien que je suis libanais.
C'est Roger Hanin en fait.
Ouais, un peu ça, il, mais il y a des scènes les dialogues sont on est proche du non-sens, ça élève le truc dans une dimension quand même assez étonnante, avec des supers images qu'on n'a jamais vues de la vie des gens à l'époque au Cameroun, et avec Bruce Lee qui lui est quand même un super artiste martial et qui joue bien. Alors lui, pour le coup, il est vraiment impliqué dans son rôle, ce qui fait pas un sous Bruce Lee dans ce film là même s'il fait les mimiques pendant les combats, parce que d'abord ça faisait plusieurs années déjà que la post-exploitation était un peu derrière lui, et que donc c'était pas non plus ce qu'on... Et puis lui, il a continué sa carrière, en fait. Il est d'ailleurs un des faux Bruce Lee qui a continué sa carrière le plus longtemps. Et mais par exemple, pour toute l'équipe du film, pour le public camerounais à l'époque, c'était pas un sous Bruce Lee, c'était juste un mec qui s'appelait Bruce Lee, quoi. C'était juste son nom, quoi. C'était un mec qui faisait du kung-fu, et un acteur, un artiste martial, c'était son nom. Ça les dérangeait pas que lui il est bien dans le film. Il est bien. Alors effectivement, le contraste dans les scènes d'action, dans les scènes de combat entre les aptitudes de d'Alphonse et les siennes, c'est pas en faveur d'Alphonse.
Ah oui.
Ouais, mais même, bon, on peut dire quand même, c'est quand même pas la plus belle apparition de Bruce Lee.
Non.
Même au niveau des combats, etc. Vraiment.
Non, bon, oui, bon. C'est vachement mieux, par exemple. Bruce Contre-Attaque, qui lui copie d'assez près les films de Bruce Lee, puisqu'il y a carrément des scènes entières qui sont plagiées. C'est pas juste les mimiques, là, la musique. Non, mais c'est vachement bien, Bruce Contre-Attaque. Mais Bruce Lee, enfin, c'est un super sous-Bruce. Hein. Notre spécialiste national de la Bruce Plotation, Bruce No, hein, Stéphane Nogues, c'est son préféré, par exemple. Je pense qu'il y a personne qui a vu autant de films de Bruce Plotation, personne de francophone qui a vu autant de films qui les connaissent à ce point sur le bout des doigts, c'est son préféré. Donc, il y a plein de bonnes raisons à le préférer par rapport aux autres personnalités ou qui sont un peu plus ou qui sont vraiment dans l'imitation Bruce Lee il avait sa propre personnalité, hein, évidemment sous influence, mais il a fait des films vachement bien, des films mieux, donc ce sera l'occasion de le retrouver. Alors juste pour finir sur Cameroon Connection, comme le film a quand même eu du succès, à un moment Benny a caressé l'idée de donner une suite.
Ok.
Et il a commencé des discussions et rencontré à Cannes un autre artiste martial qui est John Liu, qu'on connaît grâce à New York Ninja. Et oui, donc, il y a une photo qu'on a publiée dans la campagne, qui est sur la page de campagne, hein, où on voit Benny qui monte l'affiche de Cameroon Connection à John Liu. Donc, on n'est pas passé loin d'une réunion du Black Ninja et du New York Ninja. Et voilà, bon, bah, c'est une rencontre manquée qu'aurait sans doute pu apporter quelque chose de très grand au patrimoine nanardesque. On va vivre avec comme ça on peut se projeter au-delà de ce qu'on a déjà. Donc, Et donc ce film sort très bientôt. Hein, son film sort très bientôt. Là, il est chez le presseur. On croise les doigts hyper fort pour l'avoir pour la nuit à Nanarland. Mais de toute façon, sinon les envois vont avoir lieu pour tous les gens qui peuvent pas venir à Paris. Voilà. Quant au deuxième film, donc je te fais la transition, mais je peux te laisser la faire si tu veux. Quant au deuxième film, donc qui est le deuxième Blu-ray, le troisième film, qui va être sur son propre Blu-ray, donc qui s'appelle Karate contre la Mafia. Lui, il va être prêt plus tard parce qu'il est encore en cours d'étalonnage. Le master a déjà été fait, donc on a réussi à trouver le négatif qui était réputé perdu. On l'a retrouvé dans un laboratoire espagnol. On l'a fait numériser en 4K. Avec une définition qui est assez étourdissante. Et il est en cours d'étalonnage chez nos amis de Vinegar Syndrome, avec qui on travaille beaucoup.
Excellent.
Et à qui on a fait connaître le film. Et on leur a dit, mec, c'est cool, vous voulez pas qu'on le fasse ensemble?
C'est de la bonne.
Et c'est de la comme bonne, c'est pas les derniers, comme c'est pas les derniers pour aller sur ces trucs là. Et comme eux, ils ont des compétences techniques, de laboratoire. Effectivement, hein, ça nous a permis de le faire, bien comme il faut. Et donc, on va le proposer avec une qualité d'image que même des films de la Shaw Brothers n'ont pas. Alors, on va parler du film, oui. Parce que ce film, donc Karaté contre la mafia, qui a été découvert à Nanarland. C'est un film espagnol. Ouais. C'est un film qu'on peut décrire comme le premier film de karaté 100% espagnol, qui a été tourné à Las Palmas aux Canaries en 1980 par un jeune réalisateur qui s'est dit l'Espagne adorait les films de kung-fu.
Ouais, tout à fait,
la France aussi, hein, mais l'Espagne, hein, c'était vraiment des marchés, où les gens étaient ultra fans. Et donc c'était évidemment des films principalement hongkongais. Et Ramón Salias s'est dit, mais les gens adorent ça. Moi, jeune cinéaste qui n'en veut, je vais faire un film en faisant tout comme s'il avait été tourné à Hong Kong, mais je vais le faire avec les gens du coin et tout. On a un resto chinois pour les décors, il n'y a pas de problème. Et puis je sais, il y a des Chinois qui travaillent au port et tout, je leur demanderai de venir faire les figurants et tout. Et ça va être un vrai film chinois. Et il a eu aucun moment d'hésitation, aucun moment de doute, aucun moment d'abattement jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière image en boîte. Il s'est dit, je vais aller jusqu'au bout, je tiens un truc là. Et donc il livre un film de Hong Kong espagnol et en gros sans chinois.
C'est incroyable, ça.
Hongkongais.
C'est incroyable. Ouais. C'est vraiment incroyable. Mais oui, c'est ça.
C'est le projet à la fois le plus, enfin le business plan comme disent les gens de Nanarland, le plus what the fuck que tu peux imaginer, et en même temps il l'a fait. Alors il trouve tout plein d'artifices de chaque instant, il change les plaques d'immatriculation, il met des idéogrammes dans le générique, il fait traduire les noms de l'équipe en idéogrammes, y compris le sien, au générique. Effectivement, alors le resto chinois, il est surutilisé parce que c'est le seul décor. Et puis t'as des gros darons espagnols bedonnants avec des qui sont censés être au temple, enfin bon, c'est des bonzes, enfin c'est vraiment n'importe quoi.
Il reconstitue des rues carrément avec des figurants.
Ah oui, c'est la rue derrière le resto. Il prend les mecs que t'as déjà vus en figurant à peu près 7 fois à d'autres moments du film. Il met un étal et tout. Et puis les méchants, c'est les mecs du club de karaté du coin. Donc ils ont des cagoules. Pour pas qu'on voit que c'est pas des ninjas. Et puis aussi ça permet de les réutiliser. Et ça a donné lieu à un élément de langage de la nuit Nanarland. L'adversaire principal du héros, qui est toujours totalement espagnol, mais juste avec une coupe au bol à la Bruce Lee, c'est celui qui a une cagoule rouge. Et donc le public, c'est les 2500 personnes de se sont mis à, pour aider le héros dans ses combats, à le prévenir quand le type à la cagoule rouge ou celui à la cagoule bleue arrivait derrière, en hurlant le rouge. Et c'est un truc qui est resté de nuit en nuit, et c'est une nuit qui date de 2016. Et les gens, quand il y a quelqu'un habillé en rouge qui s'apprête à commettre un sale coup, quel que soit le film aujourd'hui, le public s'exclame le rouge pour prévenir le héros.
Ah, ça c'est incroyable.
Ça n'a rien à voir avec Daniel Colbert. <C'est dit. rire>
Oui, oui.
Ah, c'est incroyable. Mais c'est ça qui est bien dans cette nuit Nanarland. Chers auditeurs, si vous n'êtes pas encore allé à nuit Nanarland, là c'est un peu trop tard parce que.
N'y allez pas parce que c'est complet.
Mais l'année prochaine.
Prenez vos places l'année prochaine. C'est, ouais.
C'est incroyable. Non, mais c'est vraiment, c'est incroyable. Et ce karaté contre mafia, en fait, moi, je ne le connaissais pas. Quand j'ai vu dans le crowdfunding qui y était, je me suis renseigné, qu'est-ce que c'est que ce film? Et c'est là que je suis tombé, en fait, sur l'article.
Mais tu vas te dire ça aussi quand tu vas le voir aussi. Hein, tu te dis ça aussi quand tu le connais. Tu continues à te dire, qu'est-ce que c'est que ce film?
Mais pourquoi ils l'ont édité?
Et même,
mais je comprends pas.
Après.
Même, on se le dit toujours, non? Mais en même temps, c'est aussi ça qui est super intéressant. Alors, Ramon Saldias, qui était là la nuit en 2016. En plus, c'est quelqu'un d'absolument adorable. Il est, c'est un amour. Puis c'est quelqu'un qui a fait ça quand il était jeune. Qui est pas du tout dupe. Hein. C'est pas comme voilà Pallardy qui croit qu'il a été un vrai réalisateur. Non, par ailleurs, après, il a fait plein d'autres choses, Ramon. Hein, mais il a pas insisté dans le cinéma d'arts martiaux. Il y a quelque chose de vraiment touchant, en fait.
C'est un peu dur, moi, je le trouve quand même. Bon, il est dans cette dimension, il est dans le multiverse.
Ouais.
Il n'est pas dans le même univers que nous, mais...
Il est dans un univers qui aime bien... il aime bien ses sœurs, en fait. En gros, c'est son univers.
Non, mais Whitefire, c'est quand même bien.
Ouais. Non, je ne parlais pas de ses films. Je ne parlais pas de ses films, je parlais du personnage, en fait. Aujourd'hui, comment il est aujourd'hui, c'est-à-dire que lui, il se voile la face quand même aussi sur, tu vois, il parle de lui-même comme quelque chose d'autre que ce qu'il est, ce qu'il a été. Je parle pas de ses films qui ont des qualités, hein. Parfois malgré.
Je crois me souvenir que en 2018, quand ils ont passé Whitefire à la nuit d'Anarland, je me rappelle que l'équipe de Anarland était un peu stressée de sa réaction parce qu'elle était dans la salle. Et ils l'ont fait monter sur scène après. Et comme le film avait été quand même pas mal chahuté, je sais qu'ils avaient eu un peu de stress sans savoir comment il allait réagir. Mais finalement, il avait super bien appris.
Non, mais lui, il prend ce qu'il y a à prendre. Hein, tu sais, peu importe si c'est parce que les gens... De son film, c'est un cabotin. Mais d'ailleurs, ce que tu dis là, le fait qu'ils étaient stressés, ça correspond tout à fait justement à l'esprit de Nanarland. C'est-à-dire qu'il y a, alors, il rit des films, et puis les gens, tout le monde rit des films, mais il y a une vraie bienveillance envers les gens qui faisaient ces films, les gens qui ont fait ces films. Et ça, c'est, enfin bon, voilà, c'est pas que nous, voilà, on se retrouve de très, enfin énormément, voilà, qu'on apprécie beaucoup tout ce qu'ils font et qu'on est hyper content de redonner, de relancer cette collection. Alors c'est un label en fait. Il avait déjà fait ça avec d'autres éditeurs précédemment. Puis là, ça fait plusieurs années que il n'y avait pas eu d'occasion. Donc on est très content de faire des choses avec eux parce que c'est vraiment c'est tourné aussi vers. Il y a quelque chose de fascinant chez ces gens-là. Qu'on mis autant d'eux-mêmes, autant d'énergie à faire des films pareils. Il y a quelque chose vraiment de l'âme humaine qui s'est joué quoi dans chacun de ces nanars.
Ouais, mais il y a une sincérité qui est troublante en fait. Tu te dis mais comment ils ont pas pu se rendre compte.
Exactement. Et comment ils ont tenu les semaines que dure un tournage. En plus c'était, enfin souvent quand c'est des productions indépendantes, c'est souvent les gens se mettent en risque eux-mêmes. Ils le font avec leur propre argent, l'argent de leur famille. Enfin c'est pas quand ils gagnent au loto. Enfin ou même s'il y a pu y avoir des cas, mais c'est ça qui est fascinant et qui est on peut pas en vouloir à ces gens-là. D'avoir fait ça. On peut pas en vouloir. Au contraire, même d'ailleurs, on peut qu'être. Alors dans le cas de Ramon, en plus, qui a fait, enfin voilà, qui avait effectivement, comme le dit Claude, une vraie sincérité. Là, c'est même, enfin c'est trop mignon, quoi. C'est absolument trop mignon d'avoir fait ça. Et donc, ce sera une édition avec, alors déjà avec une image qui va avoir de la gueule comme jamais, parce que là on est dans de la restauration toutes options, hein, vraiment menée par Décador. Et puis, alors on n'a pas complètement arrêté le programme des bonus. On aura évidemment le supplément Nanarland. Puis aussi un retour sur la fameuse nuit de 2016, hein, et la standing ovation dont le public a gratifié Ramon. Et on aura aussi une sélection de bandes annonces de films de kung-fu françaises. Alors, pas des films de kung-fu français, mais des bandes annonces françaises. Parce que les bandes annonces françaises, surtout avec une voix off, bah, c'est un peu les meilleures.
Oui, je suis d'accord.
C'est un peu les pires et les meilleurs à la fois, parce que elles défendent des choses qui elles sont souvent assez racistes. Hein.
On est d'accord.
Assez tranquillement. avec une vraie désinvolture, hein, et elles sont quand même souvent vraiment fondables. Et parfois d'ailleurs, enfin à l'époque, ils retitraient comme des sagouins. Hein, ils pouvaient te retitrer un grand film de la Shaw Brothers sans, j'irais cracher du Gotham sur tes tripes ou au karaté t'as carré attaqué. Hein.
Ah c'est fou. Non mais c'est vrai que à l'époque, quand ils avaient le film, les certains distributeurs en France s'éclataient sur les titres, sur le doublage et autres, et on avait un film totalement différent de ce qu'on pouvait voir en version originale, et surtout le titre à chaque fois était assez raciste, on va pas se mentir.
Mais il faut battre le chinois tant qu'il est chaud.
Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ce qui fait aussi le charme de cette de cette époque où on se dit bah purée, en fait ils en avaient rien à péter et
ils en avaient un point à foutre.
Ça continue, hein.
Oui, oui, remarque, oui, continue, t'as raison. Hein.
C'est-à-dire que je veux dire quand tu vois qu'ils sont capables de sortir des titres anglais pour la France différents du titre original. Ça demande bien que...
Ouais, le retitrage, c'est de toute façon quelque chose de... Bon, alors après, le truc, c'est quand un film est sorti dans un pays avec son titre français, même s'il est complètement débile, hein, comme... Il y a des cas... Je sais pas, comme la planète des vampires de Mario Bava, le titre est un spoil.
Oui.
Il y en a quelques autres comme ça. Malgré tout, après, ça se met à faire partie de l'histoire que le public avec le film. Là, le public français en l'occurrence. Donc c'est ça, même si c'est des erreurs qui se faisaient et qui sont répétées, bah, à partir du moment où elles deviennent la réalité. Du coup, c'est intéressant de les raconter, c'est intéressant de revenir dessus, c'est intéressant de les mettre en contexte. Et donc, sur le programme de bande-annonce qu'on numérise, hein, à partir de la collection personnelle de d'Emmanuel Rossi, qui est un des meilleurs collectionneurs français, notamment de bande-annonce et notamment au cinéma d'exploitation, qui d'ailleurs participe beaucoup aux Nuits Nénarlandes, hein, c'est lui qui amène une grande partie des bandes-annonces qui sont montrées. Là on fait un florilège. Nous on aime beaucoup les bandes annonces, hein. On en met beaucoup, hein. On met des programmes de bandes annonces sur nos films d'horreur. On a Auto Reverse qui nous concocte des enchaînements de bandes annonces mortelles, en plus qui viennent des VHS, avec des pubs et tout, c'est avec les logos des phoques et tout, tu sais, les avant-programmes qui n'étaient pas skippables sur la VHS.
Oui, tout à fait, ouais.
Hein, les tunnels de promotion,
mais surtout qu'on les regarde. En fait, bah, hein. Ouais, on aurait pu les accélérer, mais on les regardait, ça faisait partie du truc. Exactement. Quoi.
Exactement. Et donc nous on a un vrai goût pour ça, hein. Et donc voilà, le programme de bande annonce, ça va être pas mal. Alors tout n'est pas au même niveau, puis des fois elles sont souvent un peu longues, hein, parce que c'était pas des cadors du rythme, hein, sur les bandes annonces. Parce qu'on a plein de bandes annonces qui font 3 minutes quand même.
Ah, mais ils spoilaient tout le film en fait. Hein.
Ouais. Bah, ils balançaient tout, c'est-à-dire tout était bon pour vendre. Hein.
Ouais,
bah. Mais donc on a ça. Puis...
Entre guillemets, c'est quand même un métier, un monteur de bandes annonces. Il faut rappeler que tu vois, un mec comme Joe Dante a commencé comme ça chez Corman, hein, oui, en montant les bandes annonces.
Tout à fait.
Ouais, c'est super important. Hein. Non, c'est hyper important. Et donc voilà, on va avoir une qualité là sur l'image qui va être assez ouf.
Proportionnel aux qualités du film.
Ouais, mais c'est pareil. Alors il y a toujours cet effet quand t'as une super resto, ça te rend le film plus proche en fait. Et en fait.
Alors, vas-y. Je pense quand même que la HD, spécifiquement la HD, hein, ça le faisait moins sur le DVD, mais c'est quand même dur sur les petits budgets. Ça casse quand même le côté de chip qu'on voyait pas, hein, quand on le voyait en VHS. Hein.
Alors, il y a ça que tu dis, ça c'est vrai, c'est-à-dire que ça fait pas de cadeau. Mais en même temps, il n'y a plus tous ces filtres qui étaient des filtres techniques, hein, des filtres de détérioration en fait, qui avaient par-dessus les films tels qu'on les voyait. Et en fait, ça montre aussi que même avec des petits budgets, en fait, les équipes techniques à l'époque Et ça, tu vois, c'est vrai sur Cameron Connection, Felous, c'était quand même des as de la démerde, et les mecs avec, enfin, tu leur mettais une caméra un peu de péloche et ils te faisaient un truc hyper propre, quoi. Le ces chefs au plat, c'était pas du tout, alors après évidemment. Les dialogues, le jeu, ça, c'est ça. Alors ça, tu peux restaurer tout ce que tu veux. C'est tu l'as, ça reste tel qu'est tel que c'est, quoi. Mais ça nous rapproche du film. Moi, je trouve que ça nous rapproche du moment où le film a été fait et ça enlève plein de couches qui sont quand même des couches qui mettent de la distance aussi. Et aussi, alors nous, on les a découverts en VHS la plupart du temps, mais la première fois que ces films-là étaient montrés, c'était quand même dans des salles de cinéma. Dans les salles de cinéma, ils les voyaient avec une super image, quoi. Proche de ce qui avait été tourné sur les premières copies, tu vois.
Mais c'est la promesse du Blu-ray, hein, c'est de voir des films dans des conditions qui sont les plus proches actuellement de ce qu'ont été les projections, ou ce que sont encore les projections au cinéma.
Ouais, tout à fait. Et donc, voilà, ce karaté contre la mafia, moi, alors il y a des gens qui sont sans doute insensibles parce qu'ils trouvent que c'est juste débile et tout, mais bon, bah tant pis, c'est pas pour eux, hein. Ça ne peut que toucher le cœur de tout nanardeux qui ne soit pas moqueur et qui ne soit pas qui est quand même qui est quand même enfin je veux dire ça ne peut que susciter la tendresse, ce film. Et puis d'ailleurs, enfin il y a plein de bastons dans le film, il y a vachement de scènes de karaté. Énormément, parce que ils sont assez infatigables, hein, ils en ont fait plein, donc en plus il se passe plein de trucs, c'est rigolo, quoi. Et puis voilà, le festival permanent de trouvailles ou de trucs complètement cons pour faire croire que c'est à Hong Kong jusqu'à la fin du film, c'est-à-dire qu'il abandonne pas le truc, hein. les mecs en cagoule là. Les méchants, ils sont à un moment, ils sont tués à la fin du film, et puis il y a la police qui arrive, qui enlève les cagoules, et là Ramon t'a remis les figurants chinois qui font style ils sont morts, pour que tu vois bien que depuis le début sous les cagoules c'était des chinois, hein.
Ah, c'est incroyable.
C'est trop bien.
En tout cas, bah moi je tenais à vous remercier parce que déjà pour cette émission, mais en plus de ça, merci pour de nous faire finalement de ressusciter certains classiques de VHS, certains classiques de télévision, parce que ça fait vous faites perdurer l'histoire, et il y a les nouvelles générations qui regardent aussi ces films là et qui commencent à s'intéresser, et après qui vont chercher d'autres films, et vous continuez finalement à faire vivre aussi le DVD, le Blu-ray, le physique en tout cas. Et pour tout ça, bah voilà. Moi personnellement, je vous remercie. C'est vraiment extra. Et puis c'était vraiment extra de vous avoir aujourd'hui dans Hacking dans ton podcast. Chers auditeurs, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur vos applications de podcast afin que l'on soit référencé. Encore merci à vous deux.
C'est vraiment que beaucoup trop d'honneur. Hein.
Ouais, alors voilà.
On n'en mérite pas tant.
Putain, un mot, je franchement, honnêtement, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir un quelconque rôle sur la préservation des films, etc. On sort les films qu'on a envie de sortir, en fait. On essaye de les faire sortir, hein, on n'y arrive pas toujours. On ne revendique pas de rôle particulier sur la préservation.
Très gentil de nous dire ça, mais à partir du moment où il y a des gens comme toi et les autres personnes qui participent à nos campagnes, à qui ça plaît, ça nous suffit, en fait.
Voilà, faut penser, en fait, que nous, derrière, en fait, on est un petit peu deux passionnés. Ouais. Il se trouve qu'on fait de la vidéo, mais je vais pas dire que c'est un délire, parce qu'on essaye de le faire quand même sérieusement, mais on se fait plaisir, on essaye de, voilà, mais ça va pas plus loin.
Non, on n'a pas de prétention, et c'est bon, et je pense que alors après le c'est vrai que on est content, on a une petite fierté quand on grâce, enfin quand on n'est pas pour rien pour qu'il y ait, quand il y a des restaurations, parce que ça veut dire que ça peut refaire partir les films, voilà, et donc c'est bien d'être dans cette de faire partie de ce tout petit écosystème là qui suscite ça, mais nous on n'est pas en mission, hein.
Voilà, et c'est surtout ce qui est génial, c'est que des gens ont fait des films,
ouais,
et que ces films existent en fait, et voilà, et
ils ont une nouvelle vie avec du coup avec ces DVD, ces Blu-ray, et ça c'est vraiment cool. Comme ça, on en a parlé rapidement un petit peu au cours de l'émission, mais est-ce que vous avez des, quels sont vos futurs projets?
Oula.
Je vais aller me coucher, moi, déjà.
On a envie de faire des choses sur les ninjas, on l'a évoqué, sur les arts martiaux. On va pas commencer, voilà, en commençant plutôt par le bas.
Non, bah, par le bas, on a un livre sur les zombies qui sort.
Ouais, oui, ça, ouais, ok. Trop bien.
Ça, alors non, c'est décalé.
C'est décalé.
Ah, bah, justement, on va en profiter pour vous dire. On a reçu on a eu des nouvelles de Glénat qui nous dit qu'il y a un peu de retard, donc. Ça bouchonne, c'est toujours un peu comme ça avant Noël, hein, pour l'impression et les éditeurs, ça bouchonne un peu. Donc ça sortira le 25 novembre.
Le 22 novembre. Bon.
Le 22.
Ouais, on l'attendait pour Halloween et donc il est décalé d'un peu plus de 3 semaines. Donc on a notre ligne.
Donc il sort Rock Zombie en même
Exactement,
temps.
Exactement, puisqu'on on continue sur l'horreur aussi. Hein, donc on va proposer de nouveaux films d'horreur aussi. Dans la lancée des premiers qu'on a fait au printemps, et
voilà des nouveaux,
ouais, donc on va plutôt pas mal, plutôt enfin là sur l'horreur, voilà, on va commencer à en aligner quelques-uns.
Je sais pas si t'avais vu ce qu'on avait sorti dans la collection Avenue de l'horreur,
le vidéo club de l'horreur, hein.
Le vidéo club Avenue de l'horreur, je pense que je dis à chaque fois Avenue de l'horreur, je pense à chaque fois à ce site là, c'est marrant. Bon, oui, le vidéoclub de l'horreur, je sais pas si tu t'en
souviens. Ah non, je me souviens pas.
Tu remets ?
Non, je me souviens pas.
On a sorti Mausoléum de 6 gentils petits monstres et Spookies.
Ah,
donc,
mais
c'est
oui,
une collection...
Spookies, c'est bon, ouais.
Ouais, une collection qui a pour objectif de refaire sortir des petits films d'horreur qui ont marché dans les années 80 grâce à la VHS, hein, qui étaient des films méga loués, puis qui ont été un petit peu, enfin, ils ont été un peu balayés, ils sont pas sortis ni en DVD, puis ni en Blu-ray. Ouais. Donc, on s'est dit, on va aller les rechercher.
Des films qui, par exemple, s'étaient distingués au Festival du Grand Rex ou à Avoriaz.
Ouais, comme Spookies, qui a été primé, voilà. C'est d'ailleurs complètement terrible qu'il ait été primé, ce film, parce qu'il est sans queue ni tête.
Ah, bah, c'est un film qui a été refait deux fois. Enfin, l'histoire du film est super intéressante, même plus intéressante que le film. Mais d'ailleurs, on a même sur le Blu-ray un documentaire sur la création du film qui est hyper riche.
Il est mieux que le film. Ah oui, il est mieux que le film.
Enfin, le film a été retourné, en fait, complètement, quasiment aux trois quarts.
Mais en même temps, c'est méga généreux.
Ah oui, c'est généreux. Par des gens qui n'avaient pas le même projet. C'est donc ça donne,
ah oui, ça doit être une sacrée histoire quand même.
et donc voilà, donc cette collection, on va la continuer parce que c'était aussi de l'exploration complète, hein, et puis on a demandé aux gens, ils ont dit oh ouais, super et tout. Donc il y en a deux trois qui étaient pas tout à fait d'accord, qui nous ont dit c'est la merde au fond des chiottes. Ok, on prend aussi.
Ouais.
Donc on va continuer avec des films d'horreur des années 80, hein, pour l'essentiel. Et puis on lâche pas aussi nos autres territoires qui est celui de l'érotisme et de la pornographie. De l'âge d'or, hein, tourné en 35 mm, donc on a aussi un petit programme assez sympa, assez marrant aussi, une salve de films avec lesquels de films parodiques, donc avec lesquels on va bien se marrer. Hein, on a déjà fait ça un peu avec Marilyn Jess, on a sorti les James Bond 006. Et puis là, maintenant, on va aller voir du côté de ce qui se faisait aux États-Unis, où on mettait les moyens déjà à l'époque pour faire des belles parodies bien classieuses, et quand même pas les dernières pour la déconne.
Et pour rayer les pellicules aussi.
Pour rayer les pellicules.
Mais j'en dis pas plus.
Oui, pour gratter, pour se retrouver avec des procès qui fait qu'on doit gratter, à même le négatif, le truc qu'on a plagié. le truc qu'on a détourné. Ça, c'est, ça, c'est... puis non, on a différentes choses. Et puis on a nous, on alterne aussi toujours entre les livres et les livres et les films. Hein. Claude travaille d'arrache-pied sur un projet de cœur qu'il a depuis très longtemps sur les teen movies.
Ah, trop cool.
Excellent. Voilà, donc les teen comédies
de John Hughes et tout ça.
Alors bah oui, mais ça commence bien avant, donc on va s'intéresser de d'où ça vient et en partie bah on va ça, grosso modo le gros du bouquin commence sur American Graffiti.
Ah ouais, d'accord.
Même okay. S'il y a une petite il y a un côté rétrospectif avec les beach movies, les films de délinquants avant, mais le gros du bouquin commence sur American Graffiti, la sexploitation.
Ouais.
Avec tous les films de cheerleaders, etc. Et puis on remonte le temps jusque bah dans les années 80, effectivement le cinéma de Hughes, puis la période un peu plus sombre des années 90, et puis tout ce qui arrive aujourd'hui qui est vachement intéressant là aussi, ça bouillonne.
Et ben
voilà, donc ça sera dans un moment un gros taf. Il y a je pense plus d'une année de travail dessus et un nombre de films incroyables à voir. Hein.
Bah c'est en tout cas, ce sont des beaux projets. En tout cas, chers auditeurs, le crowdfunding est toujours d'actualité. Ça sera jusqu'à la nuit d'un Irlande. Pendant la nuit, en fait, ça va s'arrêter.
Voilà, mais et foncez.
Puis... on sait pas, remarque, si ça se trouve, on fera une prolongation.
Oui,
on sait pas.
Peut-être qu'on fera une prolongation. On va voir comment ça répond. Et puis, de toute façon, ce sera après possible. Alors, pendant la nuit, pendant la campagne, il y a toujours des avantages. Hein. Là, on est en bonne voie pour débloquer un badge, les improbables de Nanarland. Ah, yes. Parce que ça, on avait dit à 450 préco, et puis bah, en fait, on est déjà plus de 400, donc ouais, je pense que ça va avoir lieu, donc ça, c'est cool.
On va devoir les faire fabriquer. Hein.
Mais bon, c'est cool. Les frais de port sont offerts, tout ça. Et puis, il y a aussi, pendant la campagne, il y a aussi un slipcover. On aime bien faire ça, des slipcovers. On aime bien faire... c'est les Anglais et les Américains, ils font beaucoup ça. Et en fait, nous, on trouve ça cool. C'est donc un bel étui cartonné, rigide, avec du vernis sélectif, une belle finition, qu'on glisse par-dessus son boîtier à marais. C'est vrai qu'il y a un peu une tradition du digipack, hein. On a essayé ça aussi, en fait nous en vrai on aime bien ça, les étuis.
Précisons que ça n'a rien à voir avec les slips, oui, hein, les slips,
oui. Ça ne se voilà. Porte
donc,
pas
ça sert hein, à rien d'envoyer vos divos, vos mensurations. Voilà, on ne fait pas sur mesure et ça n'a rien à voir avec les slips, c'est pour les boîtiers de DVD. Voilà.
Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un slip Black Ninja.
Eh ben écoute, tu nous donnes l'idée. Si on fait,
faut faire attention quand on nous dit des trucs comme ça, parce que nous des fois, faut pas jouer au plus con avec nous. Hein.
Si on fait 300%,
c'est... Okay, d'accord.
Bon, mais il y a des trucs. Alors il y a aussi des idées qu'on s'est gardées pour le bouquin sur les ninjas. Voilà, on a notre histoire avec les ninjas est pas terminée, et donc on voilà, la connerie reparlera. Aussi pour le livre et puis bah, peut-être pour les autres films qu'on va faire, parce que sincèrement, alors ça c'est pareil, hein, si pour le coup je pense que même nous il y a quelques années, si quelqu'un nous avait dit oh, faut faire des films de Godfrey en Blu-ray, c'est même pas sûr que nous on aurait dit alors faut pas le faire, hein. donc là bah il y a du monde, on verra, mais c'est vrai que c'est vraiment
parce que c'est ce qu'on disait en off tout à l'heure avant l'émission sur le crowdfunding. On peut dire ce qu'on veut, hein, du financement participatif, mais Black Ninja, c'est un parfait exemple du truc. Honnêtement, aucun éditeur va aller chercher Black Ninja. C'est un truc de fou furieux. C'est un truc à perdre des ronds, en fait.
Ah ouais.
Donc tu peux pas vivre là-dessus. Donc
t'as rien qui va te dire ça. Si tu regardes ce qui se vend, si tu regardes ce que te dit la Fnac ou les boutiques spécialisées, tu vois.
Voilà. Mais de toute façon, grosso modo, le Blu-ray de Black Ninja n'a aucune perspective économique dans le réseau de distribution actuel, sur le marché à l'instant T, quoi. C'est un truc qui est pas calibré pour. Donc, en fait, t'as qu'une seule façon de faire un Blu-ray, c'est que t'es deux connards qui se disent on va le faire. Et t'es les gens qui viennent dire ah ben ok d'accord, oh, je le précommande. Cool, hein. Voilà. Sinon ça n'existe pas, ouais. En fait.
Et ça, ça nous va bien. Et puis, bah, si les gens ne voulaient pas, on ne le ferait pas. Hein, ouais. Voilà, comme on leur demande, on écoute ce qu'ils nous disent, quoi. Voilà, ils nous disent, ah ouais, super, et tout, ouais, on y vient, on veut le badge aussi. Ok. Non, ça défie tout bon sens. Hein.
Alors, en tout cas, c'est une excellente initiative, c'est une excellente collection, et on mettra le lien du crowdfunding dans le podcast. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. C'était vraiment un moment très agréable. Quant à moi, bah, je vous retrouve la semaine prochaine avec mon acolyte Seb. Et en plus, on aura un invité. Mais qui ça peut être ? Eh bah, bien, vous le saurez en écoutant A Kick dans ton podcast. Allez, à très bientôt.